en dire et des nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il est partout en ce moment dans la télé avec le coup d'envoi hier soir sur France 2 de la dernière saison de la série à succès 10% dans laquelle il incarne Hervé, un jeune agent d'acteur qui n'a pas sa langue dans la poche. Mais cet acteur sensible est aussi dans la presse et bientôt au cinéma avec un film qui, entre rires et larmes, nous parle de la difficulté d'être acteur justement, mais aussi d'être soi-même. C'est Nicolas Maury que nous recevons aujourd'hui, acteur donc, mais aussi réalisateur, puisque son premier film, qui fait partie de la dernière sélection du dernier Festival de Cannes, sort mercredi prochain sur les écrans français. Il s'appelle Garçon Chiffon et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Nicolas Maury.
Bonjour à vous.
Alors pour préparer cette émission, j'ai vu le film évidemment, j'ai également lu un peu les journaux et je suis tombé sur un article de ma consoeur Ondine Millot dans le Figaro Madame, paru à l'occasion du festival d'Angoulême où vous avez présenté le film. Elle a interrogé à votre sujet deux femmes que vous connaissez bien, l'actrice Laure Calamy et la réalisatrice Sophie Fillière. Elle les a interrogées séparément et toutes les deux, en parlant de vous, ont utilisé le même mot, le mot bulldozer. Alors moi, ça m'a beaucoup surpris. Vous aussi ?
C'est qu'elles me connaissent très bien. Oui, j'ai comme ça peut-être, je vois, vous voulez en venir derrière vos mots. C'est que vous, oui, j'ai comme ça l'apparence d'un garçon fragile, d'un garçon sensible, d'un garçon chiffon. Mais je crois que, comme j'ai combiné la force à la fragilité, je suis devenue un tout petit peu bulldozer, effectivement.
Un bulldozer gracieux, précise Sophie Fillière, quand même. Hein.
Ouais, ça, Sophie, de toute façon, c'est un génie des mots et des associations. Mais oui, elles ont sûrement raison. Je le suis peut-être parce qu'il me semble que j'ai dû comme ça affirmer des choses, prendre peut-être une place, non pas par volonté ou par délire de puissance, mais par en tout cas par peut-être même parfois par survie. Donc je viens, comme on dit, je viens de loin.
Pour réaliser un film, ça aide un tempérament de bulldozer, a fortiori pour réaliser un premier film.
Ah oui, beaucoup plus que pour être acteur, ça, il faut même avoir une endurance, je dirais. Un bulldozer, c'est pas tellement pour écraser les murs.
C'est pour déplacer des montagnes.
C'est pour déplacer exactement des montagnes. Et je pense qu'être capitaine de navire d'un film demande vraiment une grande endurance. C'est chez Tchekhov, ils disent souvent les personnages, il faut savoir endurer. Et je pense que ça, il faudrait le marquer dans toutes les écoles de cinéma. Endurer, c'est un mot très beau, c'est ce que fait l'humanité en ce moment. Mais c'est assez intéressant d'en endurer. Il y a justement ce terme de dureté aussi de la vie. Et plus que jamais, moi, je le dis souvent, mais la préparation de ce film m'a emmené comme ça vers à tester mon endurance.
Oui. Alors en plus, vous avez choisi de vous imposer une pression supplémentaire parce que non seulement c'est le premier film, non seulement c'est la première fois que vous êtes réalisateur, mais en plus vous êtes des deux côtés de la caméra, hein, donc derrière comme réalisateur et puis en face comme acteur principal. C'était une évidence que votre personnage, le personnage de Jérémy, serait Nicolas Maury.
Oui, ça faisait partie de la situation artistique du film et pour pas paraître non plus trop pompeux, mais un peu politique, dans le sens où je trouvais intéressant de faire un film qui allait loin dans la réflexion sur la psyché, non pas sur le narcissisme ou sur l'égotisme, mais sur la psyché. Ce que voulait dire, vous l'avez très bien dit au tout début, sur le fait que c'est un film sur la difficulté d'être soi ou la nécessité, c'est une question d'être soi. Mais c'est parce que, et donc du coup, il me semblait chichiteux de demander à un autre acteur de faire ça. J'aime bien les expériences, que ce soit au cinéma ou au théâtre, et puis je ne m'étais jamais filmée et je n'ai pas été très tendre avec moi, je peux vous le,
ah oui.
le dire. Et, mais j'aimais aussi faire ça, jouer ce rôle de Jérémy Meyer pour aussi, depuis l'intérieur, dynamiter des scènes avec mes acteurs. J'aimais bien faire cette situation un petit peu au carré de moi cinéaste et puis hop derrière, moi acteur, dedans, dehors. Voilà, j'ai bien aimé cette situation chimique un peu.
Bande annonce.
Ça raconte quoi ? Tu me fais le speech ?
Le pitch.
C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
C'est pour toi.
Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà.
Pourquoi on veut pas de moi ?
Pour ces cons-là, tu es trop.
Trop ?
Albert, tu rejoins chez sa mère ?
Ben non, on est en froid.
T'as regardé dans mon téléphone ?
J'aurais une raison de le faire.
Monsieur, le cabinet est fermé.
C'est qui?
Et qu'est-ce que tu fais là?
Je suis son mari, monsieur.
On n'est pas mariés, tu sors d'ici.
Tu sortes!
Soigne ta jalousie.
Qu'est-ce qui va pas avec moi?
Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films.
Télétransporte-moi.
Ça va, mon chiffon?
Ça va, j'arrive demain.
Je descends pour y voir plus clair.
Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose?
T'as l'air tout chose.
Pourquoi tu me parles jamais de tes amours?
Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi.
Ça va aller, mon chiffon.
Ah, ne retiens pas tes ailes, marche.
T'aimes bien quoi, cher mec?
C'est une vraie question.
Jérémy, qu'est-ce que tu fais?
J'apprends mon texte pour audition.
Ne cherche pas à comprendre.
Merci pour tous mes mères.
Vos sœurs.
Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé.
Et parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie?
Mais tu fais de la.
Ton père et moi, on n'a pas eu de chance.
Mais je t'ai eu.
Mais ça, c'est énorme. Alors là, je suis heureux. Avec toi.
Garçon chiffon sur les écrans français à partir de mercredi prochain. Nicolas Maury, ce personnage de Jérémy, pourquoi il s'appelle Jérémy et pas Nicolas?
Oh bah parce que déjà c'est un film personnel et pas autobiographique. Si ça avait été autobiographique, je crois que les spectateurs n'auraient pas pu y accéder. C'est un film qui a été dont l'écriture m'a permis d'ouvrir des choses évidemment que j'ai ressenties depuis la vie, dans la vie, mais c'est pas du tout la vie de Nicolas. Déjà, Nicolas n'est pas un acteur qui galère.
Ah bon, vous me rassurez un peu, vous n'avez pas vécu les affres de l'acteur qui a du mal à boucler ses fins de mois parce qu'il n'a pas de rôle?
Très franchement, non, parce que moi je suis issu du théâtre, c'est ma maison, le théâtre, et le théâtre m'a beaucoup pris, m'a beaucoup donné, mais m'a beaucoup pris, notamment du temps. J'ai toujours travaillé, je suis vraiment un travailleur, bon, bah, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des rôles, mais. Donc voilà, non, mais Jérémy, parce que ça n'est pas moi, c'est justement, c'est pas Emma Bovary, c'est moi. C'est justement pas moi, Jérémy, c'est j'ai écrit ce rôle pour pouvoir donner cette nouvelle comment dire mimésis, parce que souvent c'est un peu toujours pareil, les rôles masculins, les héros masculins au cinéma, au bout d'un moment il y a pas tellement de choix, soit c'est le loser, soit c'est le héros.
Oui.
Moi j'aimais bien inventer un nouveau territoire de masculinité qui me semble que je suis à même de pouvoir jouer. Il n'y a pas énormément non plus d'acteurs qui auraient pu le porter, je crois, par rapport à cet endroit-là d'indécidable de la masculinité. Et donc, du coup, il me semblait que ce Jérémy, je le faisais non seulement pour des garçons chiffons, mais aussi pour des filles chiffons qui, peut-être, sont à un endroit de leur vie un peu indécidable, quoi.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Vanessa Paradis, Marilyn et John dans VMDN sur RFI, une chanson qui accompagne une des plus belles scènes de votre film, Nicolas Maury, une scène d'enfance, hein, finalement, dans laquelle votre personnage, Jérémy, se retrouve seul à chanter ce titre, cette chanson, devant un miroir avec les lèvres rouges. Pourquoi cette chanson-là?
Parce que ça, c'est... Moi, Vanessa, elle a... Moi, je suis un enfant... de provincial, de la province, comme on dit, quand on est à Paris.
Saint-Thierry-la-Perche, en Haute-Vienne, donc pas très loin de Limoges.
Exactement, dans le Limousin. Et j'ai eu mon premier, genre à 8 ans, petit manche-disque, on disait orange.
Oui.
Et Vanessa, ça a été... ça, c'est dans ma vraie vie. Ça a été... comme mon affirmation de mes goûts, c'est-à-dire que même dans ma famille, ils disaient mais pourquoi Vanessa Paradis ? Elle était assez décriée à l'époque, et je sais pas.
C'était assez clivante. On l'adorait ou effectivement on la méprisait. On la critiquait beaucoup. Quoi.
On la critiquait beaucoup.
Produit marketing, femme enfant.
Voilà, elle avait même quelque chose parfois après avoir fait Noce Blanche d'un peu sulfureux.
Noce Blanche, le film de Jean-Claude Brissot.
Voilà, et moi je sais pas. Elle a été mon élection. C'est moi qui ai dit, voilà, je suis admiratif de cette Vanessa. Et donc, du coup, j'écoutais en boucle Vanessa dans ma chambre, en découpant, évidemment, comme beaucoup d'enfants l'ont fait, en découpant des photos, etc.
Et depuis, vous l'avez rencontrée, hein, Vanessa Paradis, vous avez même joué avec elle,
oui.
Hein, dans Un couteau dans le corps, hein, le film de Yann Gonzalez. Alors, c'est pas toujours évident, quand on adulte quelqu'un enfant, de le rencontrer après en vrai. Ça vous a fait quoi? Parce que parfois, on est un peu déçu.
Ce qui était quand même assez surprenant, c'est qu'elle-même, elle m'aimait bien. C'est-à-dire que comme acteur, elle m'avait beaucoup aimé dans le film de Yann Gonzalez, Les rencontres d'après minuit. Donc ça a facilité incroyablement la chose, mais ça m'a, en même temps, si je suis très honnête, ça m'a aussi totalement déstabilisé. Parce que finalement, quand on aime quelqu'un, on prend presque, c'est son royaume à soi, de dire non, c'est moi qui t'admire. Donc elle m'a un peu volé le truc. Mais j'avoue que même si elle m'est devenue très proche dans ma vie, il y a quelque chose en moi qui la maintient à cet état presque religieux de cet amour-là que je ne veux pas enlever en moi, cette admiration profonde qui me vient de l'enfance. Hein, c'est très proustien, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire ce flashback dans mon film, parce que c'est une sensation proustienne où le temps, tout à coup, on ne sait plus si c'est avant-hier ou il y a 30 ans.
Oui, et dans le film, justement, dans Garçon Chiffon, cette fois, donc Jérémy, votre personnage, va voir Noce Blanche, hein, précisément, et en sortant du cinéma, il tombe sur son compagnon Albert, qui est joué par Arnaud Valois. Alors, on va écouter l'extrait dans un petit instant, parce que les mots sont très forts entre les deux personnages, mais au milieu de la scène, parce qu'on est à la radio, donc on le voit pas, évidemment, quand on va diffuser l'extrait, il y a ce qu'on appelle au cinéma un caméo, c'est-à-dire l'apparition furtive d'une célébrité juste pour quelques secondes, et cette célébrité-là, qui sort elle aussi du cinéma, c'est Isabelle Huppert, une femme mystérieuse, même fantomatique, elle prononce pas un mot hein, dans la scène. Pourquoi ce caméo? Pourquoi ce personnage? Et pourquoi Isabelle Huppert, Nicolas Maury? Ça va être ma question en une.
J'aimerais bien que vous me disiez pourquoi, à votre avis, vous.
Parce que Isabelle Huppert, c'est le cinéma, parce qu'Isabelle Huppert, c'est le rêve, parce qu'Isabelle Huppert, c'est la personne inaccessible, et donc c'est peut-être une façon de montrer à l'écran que être, ça peut exister.
Magnifique réponse.
C'est formidable,
vous
voyez, je fais les questions et les réponses.
Mais non,
oui.
Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que vous avez dit une chose très belle en disant le terme fantomatique. J'ai voulu lui donner une présence asiatique, c'est-à-dire quelque chose. Caméo me gêne un peu plus parce que les Américains l'ont beaucoup plus fait. Mais moi, je dirais c'est plutôt asiatique. C'est comme si elle amenait un continent. Un acteur, pour moi, amène un continent et amène. Vous savez, tout ça, c'est les mêmes racines. Fantôme, fantasme. Nous sommes des êtres, finalement, complètement abstraits, nous, les acteurs, parce qu'on est on est en deux dimensions. Le cinéma, c'est une toile. En fait, derrière, il n'y a rien. Mais il y a bien autre chose qui se passe, qui est la grâce, le mystère. Est-ce qu'une femme peut trimballer d'une écriture de rôle toute sa vie? Et moi, je voulais convoquer parce que elle m'anime énormément. Isabelle Huppert, elle donne de l'âme à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je voulais la convoquer de façon fantomatique et gracieuse. Et si vous avez bien regardé le film, et je pense que vous l'avez fait, c'est qu'à un moment donné, le personnage d'Arnaud Valois lui dit « c'était bien le film » et Jérémy dit « oui, toute cette souffrance, ces larmes, ça me lave ». Et lui en face, l'amoureux, dit « t'en as pas marre de la souffrance et c'est là qu'Isabelle passe, puisque Isabelle aussi a été ce visage de la souffrance, ce visage sublime comme les statues antiques de la souffrance. Et donc voilà, le pourquoi du comment se situerait un petit peu aussi là-dedans.
Eh bien, on va écouter précisément l'extrait avec les mots que vous venez d'ailleurs vous-même de prononcer en direct, Nicolas Maury. Donc Jérémy sort dans la rue, Albert est accoudé à sa moto.
Pourquoi t'es pas venu voir le film ?
J'avais une patte cassée, un Saint-Bernard. C'était bien ?
Ouais. Toute cette souffrance, ces larmes, ça me lave.
T'en as pas marre, la souffrance ?
Tu ne comprends pas, Albert.
Ta passion me touche beaucoup, Jérémy, mais elle me dépasse aussi.
Ma passion. Pourquoi t'es pas passionné, toi, mon amour ? Pourquoi tu m'as pas dit que tu travaillais ce soir-là, tout simplement ?
Parce qu'une urgence, ça se prévoit pas. La mise bas était compliquée, Giancarlo savait pas comment s'y prendre tout seul. Et toi, tu débarques, en pleine salle d'opération devant Giancarlo, mon stagiaire. C'est très gênant.
Giancarlo, ceci, Giancarlo, cela. Mais tu t'entends, quand tu parles de lui, on dirait du lapin smoothie !
Voilà, Jérémy. On sent hein, dans votre voix, Nicolas Maury, dans votre regard aussi, même dans votre port de tête, dans vos gestes, dans votre posture, cette souffrance hein, que les deux personnages évoquent et qui est vraiment au cœur du film. Et la souffrance, elle vient notamment de la jalousie. Une jalousie maladive dont souffre le personnage de Jérémy. Et c'est vrai que jalousie et souffrance sont des mots qui vont très très bien ensemble. Quoi. La jalousie, c'est une souffrance incroyable.
Oui, elles se sont épousées, ces deux sentiments se sont épousés. Après, j'ai voulu regarder la souffrance un peu différemment. Déjà, c'est là, en écoutant cet extrait, je me dis, les auditeurs vont se dire, oulala, mais c'est un film totalement dramatique, enfin, un film psychanalytique.
Il y a de la souffrance et il y a du rire en même voilà, temps, et c'est ça qui fait sa force.
C'est ce que j'appelle ma mélancomédie, parce que il y a ces deux choses ensemble, et ça me ressemble assez, des fois, quand je suis au plus bas, j'aime bien me relever comme ça, avec du rire, quoi. Mais c'est vrai que jalousie et souffrance, moi, j'ai toujours pensé, alors c'est peut-être rentré dans ma tête comme un virus, mais que si on souffrait pas, c'est qu'on n'était pas en vie. Mais ce qui est très beau étymologiquement, c'est que la souffrance, quand on dit madame souffrait que, souffrir, ça veut dire supporter. Au XVIe siècle, le XVIIe, c'est souffrer, c'est supporter. Et je trouve que dans ce glissement de sens qu'a pris ce mot, se situerait presque une vie humaine, une existence. Parce que la jalousie, j'ai voulu dire que c'était quand même aussi pas que quelque chose de négatif, que c'était une inquiétude, une intranquillité crasse, certes, mais au moins, c'était une demande de considération faite à l'être aimé. Voilà.
C'est une preuve d'amour, la jalousie ?
Alors, je sais pas, je dirais pas jusque-là, je pense que c'est un... Ça peut être un moyen d'aimer. C'est parfois ce qui est pas bon, c'est quand ça isole. Ce qui est pas bon, c'est quand c'est maladif. Mais c'est quand même, je crois, une demande de considération et puis une façon d'être concentré sur l'objet aimé. Enfin, je dis objet, c'est le sujet.
Oui, bien sûr. Alors, mais c'est vrai que dans la première scène du film, alors là, qui pour le coup est une scène très drôle, hein, on rit beaucoup, eh bien, on se rend compte que la jalousie amoureuse, ça peut être une véritable addiction, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui, vous parlez des jaloux anonymes.
Voilà, c'est ça. Ça existe réellement, ce groupe-là, ou c'est une invention de Nicolas Maury et de votre scénariste?
C'est une invention de Nicolas Maury. Mais je le dis, si quelqu'un le fait, je veux toucher des royalties. Si quelqu'un me pique l'idée dans la vraie vie. Non, mais de toute façon, il y a
parce que ça ressemble à une réunion d'alcooliques anonymes, sauf que la jalousie prend la place de l'alcool.
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a ce... Voilà, la jalousie. En même temps, on a croisé une psychanalyste ce matin et qui disait que c'était plutôt une super belle idée parce que la jalousie, la façon de le soigner, comme beaucoup de choses de thérapie par la parole, c'est quand même de l'outer, de l'extimer. C'est pas de... Parce que la jalousie, elle est intime souvent. Elle est à l'intérieur, elle est dans son fort intérieur. Mais finalement, de la mettre devant, moi, j'ai pu le vérifier... souvent ça tient plus quand on raconte, souvent quand on l'exprime, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, quelle fiction on est en train de créer, quoi.
Et la jalousie, elle va aboutir très vite à la rupture de Jérémy et de son compagnon. Alors donc galère côté amoureux, galère côté boulot aussi, parce que on le disait tout à l'heure, c'est aussi un film sur le, c'est aussi un film sur le, sur le cinéma. Jérémy, donc votre personnage, joue au théâtre et au cinéma, donc comme vous dans la vie, Nicolas Maury, il passe des castings, ça marche pas toujours, et le film nous fait entrer dans les coulisses, hein, du cinéma, par exemple avec le personnage du réalisateur joué par Jean-Marc Barr, qui refuse un rôle à Jérémy, donc c'est assez fréquent chez un comédien débutant, et il a une phrase assez incroyable, et il dit à Jérémy, de nous deux, c'est toi qui es le plus malheureux.
C'est moi.
Oui, c'est vous, c'est-à-dire c'est vous, l'acteur.
Non, il dit de nous deux, c'est moi le plus malheureux.
Voilà, c'est ça. Donc c'est moi, le réalisateur, qui vous refuse un rôle qui, au final, est le plus malheureux. Voilà. C'est quand même paradoxal, il y a un renversement terrible. Là, pour le coup, pour un psychanalyste, ça peut être intéressant, ça.
Oui, c'est très manipulateur. C'est quand même un métier de sélection assez impitoyable, et le terme impitoyable est choisi par moi, le métier de jouer, ce métier du cinéma, c'est quand même ce terme casting. Je préférais le terme essayer, c'est joli quand on dit des essais. On essaye pour voir si, et puis ce n'est pas que univoque, c'est pour voir si et le réalisateur et l'acteur vont se retrouver sur un projet commun. Mais là, ce qui est terrible dans cette situation, c'est que Jérémy a commencé à travailler. Il croit qu'il a le rôle, il croit donc que quelque chose s'est ouvert, même de l'ordre de son inconscient, de déjà aller vers un projet. Et là, tout à coup, de façon assez malhonnête et hypocrite, le réalisateur lui dit « Non, mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit toi, mais ça me rend malheureux et t'inquiète pas, il lui enlève même son malheur.
Oui. »
Donc ça, moi, ça m'est arrivé. Et ce genre de manipulation par le sentimentalisme, finalement. Parce que souvent, ce métier, c'est en ça qu'il est sublime et c'est en ça que parfois il est sordide. C'est que on va dire oui, mais on va pas être que des professionnels. On est des êtres humains, on a des affects. Sauf que on parle aussi au bout d'un moment d'avoir un rôle ou pas. Et voilà, donc tout se mélange. C'est ce que j'ai voulu un peu montrer de façon volontairement acide et peut-être même un peu raide et sèche dans cette scène.
Vous avez fait un casting vous-même pour le film
moi-même.
Nicolas Maury? Non, pour vous-même, ça je ne pense pas, même si vous avez forcément un peu d'affect, mais pour les rôles peut-être secondaires dans le film, vous avez aussi été dans le rôle de Jean-Marc Barr, le cynisme en moi.
Vous êtes très 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 fin de me demander ça. Eh bien, je l'ai fait. J'appellerais ça plutôt une recherche d'aller à la rencontre de beaucoup pour le personnage de Kevin, qui est joué par incroyablement joué par Théo Christine, qui est carrément une invasion pour moi et dans le film et dans ma vie, parce que justement il m'a permis d'écrire aussi à l'intérieur même de cette recherche de rôle, parce que j'ai pas fait un casting genre ça correspond, ça correspond pas, et même ce serait intéressant que vous rencontriez les autres, mais je prenais une heure avec chacun et vraiment je voulais les entendre parler, voir comment comme si j'étais un peintre, comment leur couleur allait venir intégrer, se coller, épouser, contredire le film.
Alors justement, quand vous faites un casting, quel est le petit détail? S'il y en a un, c'est difficile de mettre un mot là-dessus, mais qui va vous faire pencher en faveur de tel ou tel candidat?
Des fois, quand un acteur me trouble, et même, j'ai envie de dire, me gêne.
Il faut qu'il vous dérange.
Voilà, qui me dérange, le mot est beaucoup mieux, qui me dérange, justement, et qui me soit presque impoli dans le sens chimique, pas poli justement, qui rentre pas dans les cases, qui soit pas ergonomique. J'ai besoin, parce que moi je suis déjà comme ça, moi, comme acteur, et donc j'ai besoin de le revérifier. Je suis un peu comme un animal face à ça. Et puis j'ai besoin, parce que tout ça pourquoi, hein, c'est pas tellement parce que pour foutre la mouise, c'est que j'ai besoin de faire un trajet vers l'acteur. J'ai toujours eu besoin de ça. Je veux pas filmer des gens que je valide de bout en bout, parce que je trouve que dans ce mouvement-là, il y aurait une chose un peu molle, un peu pas artistique justement. J'ai besoin d'une matière qui me fait avancer moi comme être humain. Et Théo était merveilleux parce que je crois que sur l'échelle comme ça, vite fait, hein, des masculinités justement, enfin au moment où d'apparition de soi-même, on est assez éloigné. Et ce que racontait le film, c'est qu'il fallait que ces deux êtres très différents se rejoignent. Voilà.
Alors il y a aussi une autre réalisatrice dans le film, incarnée par Laure Calamy, qu'on a déjà évoquée au début de cette émission. C'est une réalisatrice qui est en train de monter un film et qui est visiblement au bout du rouleau et qui commence à péter un petit peu les plombs.
Tu parlais de moi. Ça va, je sais, c'est bon. J'ai compris. Oui, je suis pas au mieux, mais ça va. 17 ans de mariage quand même, hein. Comme ça, parti en fumée, d'un coup. Je peux ?
Oui, bien sûr.
Coûte pas trop cher, ça va. Et je dors pas, donc comme je dors pas, je mets YouTube et je me fais tout Véronique Sanson et Michel Berger en karaoké. C'est vachement beau, n'empêche. Un peu comme du Ravel.
Ouais, c'est vrai.
S'il te plaît, je voudrais aller à Baïa.
Pardon ?
Zora, tu l'as. Comme t'as baissé les yeux, on aurait dit James Stewart.
Bah, merci.
Bon, alors je sais, tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir. Ça te fait rire ?
Comment est-ce que vous avez... Nous, ça nous fait rire, en tout cas, c'est clair, Nicolas Maury. Comment est-ce que vous avez construit ce personnage de cette réalisatrice ?
Je l'ai construit parce que j'ai observé, j'ai vécu à peu près
ça. Il y en a des comme ça dans le monde du cinéma, vous en connaissez ?
Oui, il y en a.
Je ne vais pas vous demander les noms.
Non, mais il y en a, mais celles qui existent, il y en a celles ou ceux qui existent, je les aime. Je fais pas une là, pour le coup, c'est un peu différent de ce que je disais sur avec Jean, le personnage joué magnifiquement par Jean-Marc Barr. Et je voudrais le dire, parce que je ne le dis pas assez, c'est un honneur pour moi d'avoir Jean-Marc Barr dans mon film et qu'il ait accepté ce rôle. Voilà. Et oui, et pour le personnage joué par Laure Calamy, d'où il me vient de ce que j'ai observé, de l'usure que peut provoquer le cinéma sur les cinéastes. Et moi, j'ai une passion pour les désespérés, j'ai une passion pour les gens atteints, j'ai une passion pour les gens qu'on ne pourra jamais consoler, j'ai une passion pour les gens cycliques. Voilà. Et le cinéma rend quand même un peu parano et tout ça. Donc ça, moi, quand il y a cette scène, parce qu'après on n'a pas entendu, mais elle va pas mal s'énerver, oui. J'ai voulu avec Laure Calamy, qui est ma grande amie et qui est une histoire d'amour incroyable dans ma vie, qui est une histoire très fertile même pour nous deux. On s'apporte beaucoup avec cette Laure Calamy. On a voulu avec Laure faire quelque chose qui dépasse l'hystérie, parce qu'à un moment donné, ce cri que va pousser Sylvie Noblet, le personnage réalisatrice, c'est un cri que tout le monde pourrait pousser à un moment de sa vie, en disant « Moi, si je ne suis pas là, il n'y a rien. » Mais quel que soit le métier. Et elle dit « Vous pouvez faire tout, dire que je suis folle, que je suis ceci, mais moi, ce que je m'emploie à faire, c'est d'apparaître et de vivre vraiment ma vie. » Donc, en fait, ce cri-là, ce cri primal, pour moi, excuse toute la forme de folie de ce personnage.
Donc un personnage qui extériorise énormément, contrairement au personnage de Bernadette. Bernadette, c'est la mère de Jérémy, et quand Jérémy va mal, ben il va voir sa mère, hein, donc dans cette région du Limousin qu'on évoquait à l'instant. Et Bernadette, c'est Nathalie Baye, et elle, effectivement, elle intériorise, hein, beaucoup plus ses sentiments. Bon, Nathalie Baye, grande actrice, évidemment, s'il en est. Pourquoi elle ? Vous vous êtes rencontrés sur le tournage de 10%, c'est ça, la série sur France 2 ?
On s'est croisés, on va dire, mais c'était un très beau moment, fugace, mais avec un sentiment d'éternité pour moi. Et elle s'en souvenait, parce que c'est Dominique Besnard qui nous avait présenté, mais sans que ce soit évidemment autour de mon film. Et puis, quand le nom de Nathalie est arrivé... vraiment, ça m'a semblé qu'il est arrivé comme ça sur le film, son nom.
C'était une évidence.
C'était une évidence parce que ça avait quelque chose de de mat et mystérieux comme elle l'est. Parce que Nathalie, elle contient plein de choses. Elle est très aimée des Français. C'est une femme française. C'est un modèle dans le sens que ce soit évidemment dans les contours physiques. Elle est très belle, mais on sent bien chez elle l'amoureuse de certains hommes qu'elle a aimés. Et je crois que ça, quand on voit sur un visage d'une actrice comment elle a aimé des hommes, oui, on a envie d'aimer cette femme. Et moi, ça collait. Et une autre chose qui après devient finalement le destin d'un film, c'est-à-dire qu'il se trouvait qu'elle avait une maison dans le Limousin et que moi, je voulais que cette Bernadette soit autant une mère qu'une région. Vous voyez ce que je veux dire? On dit souvent, ah, je redescends voir ma mère, je redescends. Au bout d'un moment, si on est très honnête dans nos vies d'hommes, quand on redescend, c'est que la région devient la mère, ou la région devient le père, ou la région devient la sœur qu'on va voir. Et je voulais une femme qui personnifie plutôt, une géographie. Et donc, Nathalie, le personnage, était magnifique pour jouer une mère qui est vue par son fils d'abord comme un petit étang, et il va se rendre compte que ce petit étang est un lac, et que ce lac est quoi? Un océan. Et que cet océan est un océan vraiment merveilleux, et qu'il n'avait pas, dont il n'était pas tellement au courant, quoi, Jérémy.
Oui, alors elle vit séparée hein, du père de Jérémy, qui va mourir, hein, et ils vont se retrouver hein, pour tous les deux pour assister à l'enterrement. On va écouter une des scènes du film qui se passe dans la cuisine de cette maison. Alors Jérémy n'a pas l'air bien, c'est moins qu'on puisse dire. Sa mère le regarde en passant de la viande à la moulinette.
Qu'est-ce que t'as, mon petit chose?
T'as l'air tout chose.
Tu sais que pour ton père, faut relativiser. Hein. Il y a des drames plus importants dans le monde. Regarde ces pauvres gens, pris dans le feu en Espagne. Le père qui a sauté dans l'eau avec sa fille en croyant la sauver, et paf, écrasés tous les deux sur des rochers. Et les Arméniens, massacrés après avoir échappé à la famine.
Regarde cette belle pomme de terre. Regarde-la. Elle est pour toi. Rien que pour toi.
Philosophie. Trouve la tienne.
Voilà, trouve ta philosophie, hein, dit sa mère à Jérémy, qui à ce moment-là ne peut retenir ses larmes. Là aussi, on est à la fois dans le rire, parce que la situation avec la pomme de terre et la viande hachée, elle est quand même assez cocasse, et en même temps dans la souffrance, dans l'émotion, dans la vérité des mots. Trouver sa philosophie, et même se trouver, c'est vraiment ça finalement le sujet du film, Nicolas Maury. C'est plus difficile de se trouver, d'être soi-même quand on est homosexuel, aujourd'hui, dans la France contemporaine du début du XXIe siècle?
Je ne sais pas, puisque je ne suis pas autre chose qu'homosexuel, donc je ne peux pas vous comparer. Non, au contraire, je dirais plutôt que...
Parce que ce n'est pas un film sur l'homosexualité.
Pas du tout.
C'est plus un film sur être au monde et être un homme.
C'est un film qui... prône haut la quête existentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête existentielle? Et une enquête existentielle, en plus, malgré soi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté... je pense que ce qui est intéressant, enfin c'est bizarre de dire ça de son film, mais moi j'ai voulu écrire ça, c'est qu'on suive un personnage qui ne se rend pas compte qu'il est en train de la vivre, cette vie-là. Que même si c'est un moment de passage, comme l'est l'adolescence, et comme... Et aussi cet appel du suicide qu'il y a dans le film. Et encore une fois, je redis, c'est une comédie, les auditeurs.
Non, mais
je veux dire, on peut rire aussi de ces gens. Mais il n'en est pas conscient de tout ça. Mais en fait, à rebours, je pense que Jérémy, et je sais que Nicolas en tout cas le dit, cet état-là de sa vie s'en souviendra toute sa vie. Cet été-là, sa mère va lui faire... miroiter, va lui faire ouvrir ce qu'elle avait vraiment vécu avec son père. Et je crois que c'est un moment de son destin. Alors, Sa mère, elle lui dit arrête de faire l'autiste. C'est plutôt que pour répondre sur l'homosexualité, c'est pas tellement est-ce que c'est plus dur pour un homosexuel, mais c'est plutôt cette idée de l'autisme en fait. Souvent dans les familles, on a la place du vilain petit canard ou pas. Et en fait, c'est de savoir d'où ça part tout ça. D'où ça part d'être isolé, d'être ostracisé, d'où ça part d'être mis sur le côté. Est-ce que ça vient de soi-même, est-ce que ça vient de la société, etc., etc. Moi, c'est de autiste à artiste, comme je dis, il n'y a qu'une lettre de différence. Et sa mère, peut-être, et son père, a voulu en faire un autiste, et peut-être c'était un artiste, ce Jérémy. Et voilà. Mais sa mère, par contre, lui fait le plus beau des cadeaux pour l'acceptation de soi-même, justement. Qu'est-ce qu'elle lui dit au lieu de lui dire « accepte-toi toi-même » parce que c'est comme une injonction « accepte-toi toi-même », ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais elle lui fait le plus beau des cadeaux. Elle lui dit « moi, j'ai vécu une vie désastreuse » et elle lui raconte les désastres. Et je crois qu'au lieu de garder ces désastres, de dire « voilà, peut-être que si tu es aussi intranquille, c'est peut-être que dans ton sang, tu as hérité de comment on s'est mal aimé avec ton père. » Et moi, cette scène, par exemple, c'est celle que j'ai écrite en premier. Je l'ai écrite parce que je pense que c'est important, la parole, le langage dans les familles, c'est très très important.
Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie.
Mais tu en as de si belles, toi aussi.
Ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp.
Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé. Il a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager.
Va, déplie-les bien tes ailes, ma chérie.
Il faudrait que tu essayes toi aussi.
Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler.
Moi, la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé.
C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi je t'ai lissé les ailes, ma chérie.
Mais je peux lisser les tiennes, moi aussi.
Ça ne se fait pas si vite déjà, tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi celui du déjà vu.
Mais tu restes à ras de terre,
celle où je t'ai fait marcher.
Toujours te taire,
il le faut pour t'écouter. Mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie. Mais il faut que je revole, laisse-moi m'habituer.
Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su voler.
Anne Sylvestre, ma chérie, dans VMDN sur RFI, une chanson qui accompagne votre film Garçon Chiffon, Nicolas Maury. C'est essentiel pour vous, la musique dans un film?
Oui, c'est essentiel et c'est surtout pas accessoire. Moi, par exemple, avec le compositeur de musique de mon film, Olivier Marguerie, j'ai même tourné des plans en sachant qu'il y aura qu'ils accueilleront la musique. Et des fois, je l'avais, des fois, je l'avais pas. Je n'ai pas imaginé mon film avec une musique qui serait une musique, j'appelle ça rustine, bouchage, comme une espèce de pièce de montage qui va monter des plans ensemble. Non, pour moi, la musique doit même être un moyen d'écrire aussi. C'est de l'écriture. Et du reste, la fin, je veux pas griller, mais se termine en chanson. Et oui. Donc, ta chanson, elle était évidemment prévue depuis très longtemps. Mais là, par exemple, ma chérie, en plus, je crois qu'Anne Sylvestre était assez heureuse, parce qu'on lui demande souvent Les gens qui doutent, qui est une chanson merveilleuse, mais qui a beaucoup fait, qui est un peu devenue une convention oui. au cinéma, parce que beaucoup de fictions l'ont utilisée. Moi, j'ai utilisé cette musique, ma chérie, parce que elle est absolument le film. C'est la déclaration de liberté, d'envol d'une mère vers sa fille, mais d'une fille vers sa mère.
Vous êtes aussi passionnée de mode? Je crois, donc j'imagine que vous avez aussi beaucoup accordé d'importance au costume avec Elisa Ingracia, qui est la oui. costumière du film. Oui. Par exemple, ce pull avec les moutons, là, qui fait partie peut-être de votre identité visuelle, en tout cas l'identité visuelle du personnage de Jérémy.
Oui,
c'est essentiel pour entrer dans un rôle hein.
Oui, c'est essentiel, et puis c'est essentiel surtout, encore une fois, je vais dire la même chose que pour le métier d'acteur, c'est essentiel l'hétérogénéité. On a souvent parfois un réalisme dans les costumes, alors qu'on voit très bien que dans la vraie vie, il y a des audaces absolument faramineuses. Et pourquoi, dès qu'on passerait au cinéma, les costumières ou costumiers de cinéma diraient « Oh non, non, faut faire gaffe, ça fait trop. Oh là, on va tomber dans ci, on va tomber dans ça. » Moi, c'est vrai que je n'ai pas peur de grand-chose, mais j'aime bien me provoquer, en fait, avec des costumes. Et Elisa Ingracia, qui est une costumière absolument formidable, n'a pas du tout été frileuse, parce qu'il fallait, pour elle... fallait quand même correspondre aussi, parce que je suis quand même assez scientifique des vêtements. J'aime pas dire tellement mode, parce que ça fait modeux, nana. C'est vraiment, pour moi, ce que j'aime, c'est les maisons. J'adore dire même ce terme maison. Moi, j'ai beaucoup... Par exemple, là, c'est la maison Lanvin qui a fait ce pull. C'est Bruno Cialelli. Et je déplore souvent un cinéma des années 40, 50, hollywoodien. Tout à coup, Audrey Hepburn faisait... tous ces costumes, le vestiaire était dessiné par Hubert de Givenchy, où tout à coup, c'était un projet de film, était un projet tout ensemble. Tout était pensé. Xavier Dolan le fait formidablement. Xavier Dolan, il est comme ça, le directeur artistique des costumes, et je me sens assez proche de ça.
Et des nouvelles sur RFI.
Avec Nicolas Maury à l'occasion de la sortie de son premier film Garçon Chiffon, mercredi prochain dans les salles françaises, et pour se mettre en bouche en attendant, hier soir sur France 2, il y avait aussi les deux premiers épisodes de la saison 4 de la série 10%, comédie à succès qui se passe au sein d'une prestigieuse agence artistique d'acteurs, avec à chaque épisode une vedette qui joue son propre rôle avec une bonne dose d'autodérision. Bonne annonce du premier épisode diffusé hier soir avec Charlotte Gainsbourg.
On n'est pas du tout une agence okay. Qui va crever. On coule sous les projets, d'accord ? Allez, go !
Ils s'attendent à ce qu'on serre la ceinture. Eh ben, on va faire exactement le contraire. On va engager de nouveaux talents.
C'est pour ça les corbeilles de fruits ?
Ça fait très orgie romaine, j'adore.
Charlotte !
Ça veut les filles ?
Ben, moi, c'est Sandrine du 75.
T'as vu la gueule de camping-car ?
Mais qu'est-ce qui se passe ?
J'équilibre les comptes.
Mais quel compte ?
Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse. C'est clair ?
Ah ouais, c'est clair. Effectivement, ce que demandait Charlotte Gainsbourg à Andrea, le personnage joué par Camille Cotin dans ce premier épisode diffusé hier soir. À ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu la série, Nicolas Maury, est-ce que vous pourriez nous présenter votre personnage, le personnage d'Hervé ?
Alors, Hervé André Gézac, faut le rencontrer, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit loup des bureaux, c'est un petit faon plutôt qui au lieu de marcher galope comme un fou dans les bureaux de cette agence artistique. Il est assistant d'agent, mais il a beaucoup d'appétit, d'amour pour ce métier, pour beaucoup de soumission à son métier aussi, parce qu'il s'est un peu mis de côté pendant quelques années. On ne sait pas grand-chose d'Hervé sur sa vie affective, il a réussi plus ou moins, plutôt moins que plus, et il a cette chose qu'on adore détester ou qu'on déteste adorer, et c'est-à-dire qu'il a un côté un peu bitch, disons-le, et en même temps... Au fur et à mesure, Hervé prend une forme d'épaisseur et va peut-être en saison 4, donc là je fais vraiment...
Voilà,
j'avance très vite.
Un petit peu de teasing sur la 4.
Va peut-être en saison 4 oui. Se rencontrer lui-même, lui aussi.
Voilà, donc on va pas en dire plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup à Nicolas Maury d'être passé nous voir. 10%, donc sur France 2, prochain épisode, mercredi prochain. Mercredi prochain aussi, donc grande journée pour vous. Hein. Donc la sortie du film Garçon Chiffon. Et puis au printemps, je crois aussi, vous serez au théâtre
oui.
Du Goldoni, ça se confirme ?
Exactement.
Avec oui. Muriel Mayette-Holtz à la mise en scène au Théâtre National de Nice. Merci beaucoup.
Merci.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Et avant de se quitter, on va découvrir une petite maison d'édition que les amateurs de musique du monde connaissent bien, les éditions Didier Jeunesse et leur collection Comptines du Monde. Dans le sillage des comptines de cajou et de coco, sorties en 2018, qui célébraient le patrimoine musical créole et africain jusqu'au Brésil, les éditions sortent un nouveau livre-disque, ça s'appelle « Trois comptines et berceuses de vanille » et ça sent bon l'Afrique et mon île à moi, La Réunion. Hélas pour elle, alors ce n'est pas à La Réunion, mais dans les locaux parisiens de Didier Jeunesse que Marjorie Bertin, notre reporter, s'est rendue pour savoir un petit peu plus sur ce livre-disque qui nous plonge donc dans l'océan Indien.
dodo, petit baba. Sors ce soir maman avec son papa.
Un album qui célèbre le métissage et qui s'accompagne comme à chaque fois d'un beau livre dans lequel les chansons sont écrites dans leur langue d'origine et traduites. Elles sont illustrées par des dessins de couleurs vives qui représentent des enfants, des parents, des paysages, illustrés par la togolaise Magali Atiogbe. Mais c'est avec Michèle Moreau, directrice de Comptines du Monde qu'elle a créé il y a plus de 30 ans, que j'ai rendez-vous. Et Nathalie Soussana, qui depuis des années collecte des chansons pour ses albums, où se mélangent voix d'artistes et d'amateurs avec des voix d'enfants. Alors comment Nathalie Soussana s'y prend-elle ?
Je cherche le répertoire de berceuses, de comptines et de chansons traditionnelles. À partir de là, je vais chercher donc les interprètes qui vont être capables d'interpréter ce répertoire. La plupart du temps, ça se fait en région parisienne, puisqu'on a le monde entier à Paris, on a cette chance-là. J'ai fait un travail à la fois de bibliothèque, de recherche de ce qui existait, etc. Et puis aussi auprès des populations susceptibles de transmettre en fait ce répertoire traditionnel.
Car il est bien question de transmission et de partage dans ces livres disques. On y apprend à chaque fois d'où viennent les chansons, de quoi elles parlent, comment elles ont voyagé dans le temps et les continents. Michèle Moreau nous raconte pourquoi et pour qui elle a créé cette collection.
Le premier volume de la collection est sorti en 1999. C'était À l'ombre de l'olivier. Ce recueil-là, j'en ai eu envie après avoir publié des comptines anglaises, des comptines allemandes et des comptines espagnoles. Et il m'a semblé impératif à ce moment-là de s'intéresser aussi aux autres enfants vivant en France qui entendaient une autre langue à la maison et qui étaient donc bilingues, et revaloriser la culture de leurs parents, les faire revenir vers leurs racines et redonner envie aux parents, aux familles, de chanter aussi dans leur langue.
Vanille est réalisée par Jean-Christophe Waro avec beaucoup d'instruments traditionnels comme la valia, le rouleur, le bobre ou encore le ravan mauricien. Nathalie Soussana a rassemblé 25 chansons des Comores, de Madagascar, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Réunion et du Kenya. Des chansons pour jouer, sauter, faire la ronde ou tout simplement danser comme sur cette chanson malgache. Certaines chansons sont graves, comme Tula Baba en Zoulou, dans laquelle il est question des pères qui doivent quitter leur famille pour gagner leur vie en ville.
Tula, Tula Baba, Tula Sana, Tulu Babu Zobuya Ekuseni.
Et puis il y a aussi la présence étonnante en 5 versions différentes de Frère Jacques, dont on apprend en lisant Vanille qu'elle aurait été composée par Jean-Philippe Rameau.
Voilà, Marjorie Bertin pour VMDN, et demain dans le Café Gourmand de l'émission, Sébastien Geder nous emmènera à nouveau dans l'océan Indien avec cette fois le chanteur réunionnais Davy Sicard. Demain également dans VMDN, après un primo réalisateur, aujourd'hui une primo romancière, Fatima Das. Elle publie La Petite Dernière aux éditions Noir sur Blanc, et vous m'en direz des nouvelles.